C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzy. Auteur Jean Cocteau, 1889-1963. Romancier, poète, français, homosexuel. Œuvre Les Enfants Terribles, roman, 1929. Personnage Paul et Elisabeth. Adaptation, un film de Jean-Pierre Melville en 1949, un opéra de Philippe Glass en 1996. Jean Cocteau était un artiste égyptien. Nous le reconnaissons à ce que, livres ou films, tous ses personnages sont peints de profil. Je veux dire par là que Cocteau les fait saillir au moyen d'une seule caractéristique, d'un seul défaut même, et ce défaut est relatif à la sociabilité. Si l'on s'approche des images de profil que sont ces personnages de Cocteau, on remarque qu'ils ont un pied beau. Quelque chose les rend socialement et parfois sensiblement inaptes, ils boitent. D'ailleurs, boiter est un verbe que Cocteau emploie souvent, soit littéralement, soit métaphoriquement. Au début des Enfants Terribles, durant la bataille de Boule de Neige entre écoliers qui ouvre le livre, un des combattants blessé au genou se retire à cloche-pied. Ces profils sont doublement égyptiens. Par ce que je viens d'énoncer d'abord, ensuite par le hiératique, posture préférée de Cocteau. Le hiératique, c'est chez lui un désir de chic, d'alexandrin en prose, au bord de la ruse. Il ambitionne le mythe, il emploie le mot dans Les Enfants Terribles, tout cela se voit parfois un peu trop. Il y a une dizaine de pages au chapitre 13 où le même Cocteau qui avait écrit dans le rappel à l'ordre « Le mystère est une position trop favorable pour qu'un esprit bien élevé s'y maintienne » abuse des mots mystère, mystérieux, fatal, fatalité, tragédie. Enfin, c'est un dérapage et le livre garde une tenue admirable, c'est sans doute une grande œuvre. Ce que Cocteau cherche, avec ses Égyptiens à pied beau, c'est une catastrophe noble. Apparaît toujours dans le ciel de la fresque qui l'accélère, un autre de ses mots est vitesse, un corbeau qui criaille et bat des ailes au-dessus des personnages se débattant alors dans une hystérie racinienne et tout finit mal, tout finit mal. Des traînes de reines sur des enfants de la comtesse de Ségur qui se barbouilleraient de fatalité au lieu de confiture de fraises, voilà sans doute Paul et Elisabeth, le frère et la sœur insupportables de ce roman. Cocteau, qui avait lui-même toujours l'air de profil, avec sa tête en lame de couteau, écrivait de profil. Un couteau n'est pas efficace de face. Dans le premier volet de mon diptyque de l'adolescence, la semaine dernière, j'ai parlé du grand Maulne et de son adolescence idéalisée. Dans Les Enfants Terribles, Cocteau ne montrerait-il pas une adolescence moderne, celle qui se révoltait contre les conventions, qui sont Paul et Elisabeth, les Enfants Terribles? Pour en parler, je reçois Jean-Yves Tadier, professeur émérite à la Sorbonne, éditeur et vice-président de la Société des Amis de Marcel Proust. Il a récemment publié Marcel Proust, croquis d'une épopée chez Gallimard, et il parle des Enfants Terribles dans son récit poétique chez le même Gallimard. Jean-Yves Tadier, à quoi ressemblent Paul et Elisabeth, ces enfants presque sans famille et en tout cas sans nom de famille, dans le Paris des années 20 où le livre se passe?
Deux adolescents très beaux, évidemment, et qui se ressemblent beaucoup l'un à l'autre. On a d'ailleurs de nombreux dessins de Cocteau en marge des Enfants Terribles, où on a sa propre vision, que nous ne sommes pas forcés d'épouser d'ailleurs. Paul est un très beau garçon, malgré la puberté, et Elisabeth, qui est 2 ans de plus que lui, je crois, une très belle jeune fille, un profil un peu grec, pour ce qui est d'Elisabeth, un peu rond, mais néanmoins séduisant, pour ce qui est de Paul. Notons d'ailleurs que Jean Cocteau se sert à la fois du nom d'un des personnages préférés de la comtesse de Ségur, en effet, et aussi, je crois, le prénom de l'un de ses frères.
Ils ont 14 et 16 ans au début de l'histoire.
Oui,
et
ils vieillissent.
Ils vieillissent, c'est ça, oui. de quelques années.
Hein. Oui, ils vieillissent de quelques années, ils se retrouvent 3 ou 4 ans plus tard.
C'est ça. Il faut dire que cela se passe rive droite, à l'époque ça comptait dans Paris, la rive droite et la rive gauche, cité Montier, près de la place de Clichy. Et
d'ailleurs, la cité Montier est encore visitée parce que beaucoup d'amateurs savent que là s'est déroulée la très belle bataille de Boule de Neige, qui est à la fois une scène magnifique du roman, une très belle scène du film de Cocteau et Melville, et aussi un très beau dessin de Cocteau.
Alors, ces deux enfants, Paul et Elisabeth, ont une mère qui a, je crois, 35 ans au début du livre.
Oui, mais qui va se dépêcher de mourir.
Voilà, qui est veuve et qui va mourir.
Voilà, elle encombrait un peu et elle meurt et ça ne semble pas, d'ailleurs, peiner outre mesure les enfants.
Et d'ailleurs, de quoi vivent-ils, ces enfants ?
Alors ça, c'est un mystère. Ils ont un père qui a disparu, et c'est un oncle qui va subvenir à leurs besoins avec une générosité qu'on serait content de trouver chez tous ses oncles.
Ce sont des enfants de bourgeois, mais qui n'ont pas une vie bourgeoise, on va le raconter. À partir de la mort de leur mère, qui advient très vite dans le livre, ils vivent seuls dans la maison, dans un désordre de linge, d'oreiller et de livres, où la chambre est un lieu quasi magique, et vous-même écrivez dans votre étude sur Cocteau un espace transcendant.
Oui, alors c'est ce qui est fondamental dans ce livre, comme d'ailleurs chez Proust, c'est la chambre. Il y a une sorte de... La chambre est une sorte de lieu fantasmatique où les enfants se renferment et ils ne sont heureux que là. C'est évidemment extrêmement malsain. Bien sûr, dès le début, c'est une rupture totale avec le monde où on va à l'école, on va à l'université, on travaille à l'usine, on gagne sa vie. Aucun de ces problèmes n'est là et on sort en plein air. L'air ne circule pas dans Les Enfants Terribles. Mais il faut bien voir aussi que ce livre, qui peut paraître très artificiel... En réalité, a tout de suite frappé la jeunesse, quand il est paru en 29, qui a été enthousiaste. C'était pour elle un livre de rupture, de révolte, d'avant-garde, de extraordinairement nouveau, et très vite, Cocteau, qui s'attendait à un insuccès total, a été contre assiégé par ses jeunes lecteurs.
Et d'ailleurs, ce qui contribue à l'effet fantasmagorique de la chambre, c'est qu'il neige tout le temps dans ce livre. On voit des flocons de neige, ça ouate le
La neige,
le roman.
C'est un grand effet poétique. Dès le début, nous savons plus ce que c'est en autant de réchauffement climatique que la neige sur Paris. Il neigeait tous les hivers. Et donc, la cité Montier et la rue en face, et Condorcet, et l'endroit où ils habitent, et tout le temps sous la neige. Et en même temps, cette neige est symbolique. Il faut pas savoir beaucoup d'argot pour ne pas penser à la drogue.
Et alors, ce frère et sa sœur ont un jeu.
Oui, c'est ça. Ils se construisent un monde imaginaire dans lequel ils s'enferment. Et c'est ça, jouer au jeu. Voilà. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais c'est tout à fait étonnant. Tout d'un coup, ils s'absentent d'eux-mêmes pour se réfugier dans cet autre monde qui est celui de leur jeu et où ils se retrouvent. Et avec des objets qu'ils emmènent. Et dans ce jeu, ils acceptent d'introduire une ou deux personnes de leurs amis, ce qui d'ailleurs causera leur perte.
Il y a aussi dans cette chambre une espèce d'hôtel sous la forme ou sous l'espèce d'un tiroir de commode où ils mettent les choses les plus précieuses.
Oui, ça, c'est très enfantin parce que ce sont des petits objets sans valeur en réalité, mais auxquels ils sont très attachés.
Voilà, une petite main en ivoire, une bille d'agate, un protège-pointe de style.
Il y a chez Cocteau certainement une compréhension magnifique de l'enfance. Lui-même a toujours eu cette allure d'un grand enfant d'ailleurs.
Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que le mot adolescent n'est nulle part dans le livre, alors qu'ils ont l'âge de l'être et que le mot était couramment employé.
Non, je ne crois pas non plus qu'il y ait le mot puberté, par exemple.
Non plus. Or, ils ont 15, 16, 17, 18
oui.
ans.
Et peut-être qu'ils ne vieillissent pas, en réalité. Peut-être que, vous savez, c'est comme dans la merveilleuse nouvelle de Supervielle, l'enfant de la haute mer, l'enfant qui a éternellement 8 ans dans son île.
Et évidemment, quand Cocteau emploie le mot enfant, il signifie quelque chose comme immature, je présume.
Pas sûr. Ça peut être cet état de poésie qu'il faut... Vous savez, la phrase de Baudelaire, « Le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté ». Eh bien, Cocteau veut se maintenir dans l'enfance, l'éternel enfant de Madame Cocteau ou d'Anjou. Et il maintient aussi ses enfants dans cet état. Il refuse de grandir.
Alors, le lien entre Paul et Elisabeth qui... À mon avis, n'est pas du tout incestueux, comme certains ont pu le dire, parce qu'on les voit se baigner ensemble dans une même baignoire, et je n'ai vu aucune allusion sexuelle là-dedans. En tout cas, l'un et l'autre ont des rapports qui sont à la fois fusionnels et conflictuels en permanence. C'est-à-dire que Elisabeth est très hautaine, il s'injurie, Cocteau le dit tout le temps, et elle trouve son frère assez veule. Elle dit veule, frivole et irréfléchie.
C'est vrai. Les deux, c'est Elisabeth, la personne intelligente. Paul est une sorte de poupée entre ses mains. Il n'y a pas, en effet, vous avez raison de signaler, il n'y a aucune allusion à la sexualité dans ce roman, mais néanmoins, il s'arrête, dit Cocteau lui-même, au bord de l'inceste. C'est-à-dire, c'est une créature hermaphrodite qui cherche à reconstituer. l'hermaphrodite selon Platon, c'est l'homme qui est en même temps sa femme. Et là, le frère et la sœur rêvent de cette créature unique qu'il pourrait être, mais en même temps ils se disputent. C'est tout à fait vrai, et ça va entraîner d'ailleurs des ruptures.
Alors Cocteau a été poli dans l'écriture de son livre, parce que en même temps qu'il dit, il s'injurie sans cesse, la plus grosse injure qu'il nous cite est le mot idiot ou idiote. Alors voici trois qualificatifs du narrateur du livre au sujet d'Élisabeth et de Paul: inculte, pur et sauvage. Et il ajoute, ils sont incapables de discerner un bien et un mal.
Oui, tout ça, on fait des créatures paradisiaques, finalement, antérieures à la distinction entre le bien et le mal. Le monde de la pureté, le paradis tel qu'on l'imagine, peint par le douanier Rousseau, c'est aussi un monde sauvage. Et la culture, bien sûr, est liée à la chute en dehors du paradis terrestre. C'est le monde où il faut travailler, même intellectuellement.
Alors, il y a dans cette histoire, en une espèce de chiasme de Paul et d'Élisabeth, Gérard, qui est un ami de Paul et qui est secrètement amoureux d'Élisabeth, et Élisabeth rencontre un Américain très riche, et là, ils vont vivre dans la maison de cet Américain.
Oui, alors c'est assez curieux, parce qu'il n'y a pas de drame lorsqu'Élisabeth épouse cet Américain, Michael, qui, d'ailleurs, a le bon esprit de mourir 15 jours après dans un accident de voiture, comme dans un mauvais film. Et quant à avec l'autre garçon, c'est beaucoup plus compliqué, parce que lui, il est amoureux d'Élisabeth, ça l'encombre. Mais là n'est pas le pire, c'est que Élisabeth, tout à coup, veut travailler. Assez étrangement, elle finit par s'ennuyer dans la chambre, et donc elle devient mannequin de maison de couture. Un monde que Cocteau, d'ailleurs, connaît bien. Sa grande amie Nathalie Palais est mannequin, et épouse Lucien Lelon, d'ailleurs, etc. Chanel, plus tard. Donc, il connaît ce monde, il en fait donc un mannequin. Et elle rencontre un autre mannequin, bien évidemment, qu'elle Agathe, qui porte non seulement un nom de bille, comme dit Cocteau, mais aussi un nom de femme dans un des plus beaux poèmes qui soit au monde.
C'est-à-dire
allusion
Baudelaire.
À Baudelaire, parce que Baudelaire est très présent.
Oui, il est
même
cité
dans
deux fois.
Monde.
Enfin, il n'est pas cité, il est évoqué deux fois.
Mais il est là, le paradis artificiel, c'est là.
Bien sûr.
Et donc, elle introduit Agathe. Et Agathe tombe amoureuse de Paul et ça va être réciproque.
Voilà. Et alors, la chose très frappante, c'est que toute mariée qu'elle est, Élisabeth demeure vierge. Le narrateur emploie même à son propos un peu plus tard l'expression « la vierge de fer ».
Oui.
Donc tout ça, c'est encore pour dire qu'il ne s'agit pas d'histoire de sexualité.
Non, non, absolument. Mais en même temps, Cocteau, comme Proust d'ailleurs, a peut-être du mal à imaginer les femmes autrement que vierges, c'est-à-dire comme sa mère.
Alors, pour telle raison que nous expliquerons dans la deuxième partie de l'émission, Paul entre en possession d'une boule d'opium. Il faut dire d'ailleurs que c'est pendant une cure de désintoxication à Saint-Cloud que Cocteau a écrit en 15 jours ce livre.
Prodigieux, oui.
C'est assez probable. Oui, il l'a écrit en 14 jours même. Non, 17 jours, pardon. Et le mot d'opium n'est pas écrit, mais la description qu'il fait de la boule marron est bien ça, n'est-ce pas?
Oui, absolument. D'ailleurs, il y a deux livres écrits par Cocteau dans le court moment de sa cure de désintoxication. C'est Opium, qui est un de ses chefs-d'œuvre, et un chef-d'œuvre en soi, à la fois graphique, par d'invraisemblables dessins, des obsessions dictées par la drogue, et puis littéraire aussi. Il y a parmi les plus belles pages qui est écrite sur Proust dans Opium, et bien d'autres, et un admirable poème qui porte en germe tous les enfants terribles, et où il est question justement de la boule d'opium. Donc, ce qu'il y a de très beau, c'est construit comme un poème, les enfants terribles. La boule noire de l'opium, et l'équivalent à la fin de la boule blanche de la neige au début. Il faut rappeler que Paul a été blessé, on y reviendra, par une boule de neige probablement qui contenait une pierre. Une blessure à la poitrine apparemment inguérissable comme dans la mythologie et chez Wagner, comme Enfortas, une sorte de jeune Enfortas. Et donc, il y a une très belle rime. La boule blanche du début devient la boule noire de la fin. Et la fin a été écrite par Cocteau d'abord. Il faut, chose assez étonnante, si on l'en croit, il a écrit d'abord les dernières pages, un peu comme Proust dit qu'il a écrit le début et la fin de La Chose perdue en même temps. Cocteau a écrit la fin des Enfants terribles, qui est une fin très triste.
Alors, c'est justement, cette fin vient d'une en grande partie d'une combinaison de mensonges faite par Elisabeth pour empêcher Paul d'épouser Agathe, n'est-ce pas?
En fait, c'est une intrigue à la Bernstein, une intrigue de boulevard.
Voilà la biche, oui, c'est ça.
Qui entraîne une tragédie et non pas une comédie. Et ce qui va se passer, c'est que Paul va se suicider en avalant cette boule d'opium, dont l'effet est lent mais fatal. Et quant à Elisabeth, elle veut mourir en même temps que Paul. C'est comme Tristan et Isolde, finalement. Et elle a un revolver dont elle est prête à se servir au moment où Paul aura fini de vivre. Malheureusement, elle se trompe un peu et il y a un décalage, elle se suicide avant Paul.
C'est-à-dire qu'elle croit qu'il est mort. Comme il est abruti par l'opium, elle croit qu'il est mort, elle se tue, il se réveille et voilà. c'est après qu'il meurt.
Oui, alors ça c'est un peu comme Roméo et Juliette.
Nous allons maintenant entendre un extrait de l'opéra que Philippe Glass a tiré du roman de Cocteau sous le même titre « Des enfants terribles » en 1996. C'est la suite « Paul's End » pour trois pianos, joué par Giorgia Tomasi, Carlo Maria Grigoli et Alessandro Stella. Jean-Yves Tadié, nous avons dit dans la première partie de ce personnage en personne sur les enfants terribles que Cocteau, en évitant le mot d'adolescence, évitait aussi l'idée de sexualité. Mais tout de même, il y a dans le roman un passage très subi de la non-sexualité de Paul à la sexualité d'adulte, c'est-à-dire que il va fréquenter des prostituées. Et ça, ça nous est dit deux fois comme ça.
Oui, c'est tout à fait étonnant et ça passe en général inaperçu. Il faut un lecteur comme vous pour le noter, bien c'est que ça n'engage à rien, finalement. Alors on se demande pourquoi Cocteau a éprouvé le besoin de l'écrire.
Est-ce que ce n'est pas une précaution de Cocteau vis-à-vis du public de son temps? C'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'il prouve que son personnage était hétérosexuel.
Ah oui, ça peut être une excellente explication, en effet.
Alors, il y a un personnage moins important, à mon sens, que son apparition métifiée au début du roman ne le laisse entendre. C'est bien sûr Dargelos. Cocteau est très habile et je crois, Jean-Yves Tadié, que nous aurions été emprisonnés dans l'idée qu'il veut que nous ayons de son livre si nous avions parlé du personnage de Dargelos dès le début. Qui est-ce, Dargelos?
C'est un personnage réel, d'ailleurs. Une créature fantasmatique. C'est un garçon très beau qui, dans la cour de la cité Montier, de Condorcet, jette sur la poitrine de Paul une pierre qu'il a enrobée de neige et qui va entraîner l'hémoptysie. On ramène Paul à la maison et il va se traîner dans une maladie mystérieuse pendant des mois et des années à cause de cette boule fatale. Et on découvre dans l'œuvre de Cocteau que c'est une obsession qui revient. Ça revient dans ses poèmes, ça revient dans ses textes critiques. Cette figure de l'ange noir qu'incarne Dargelos semble l'envers de l'ange blanc qu'est Paul. Et Paul est au fond amoureux au moins autant de l'ange noir qu'il est de sa sœur. C'est pourquoi quand il reçoit cette boule, de quelqu'un qui l'envoie parce que Il fait collection, ce Dargelos, il fait collection de poisons. Collection rare, évidemment, dont jamais parlé dans la vie. On ne connaît pas de gens qui collectionnent des poisons. Eh bien, lui, il les collectionne, et différents, et il décide d'en envoyer un, mais pas pour le tuer, à Paul. Et ça deviendra, au contraire, l'instrument du destin.
En tout cas, ce Dargelos, je crois, a existé dans la vie de Cocteau, sous ce nom-là, c'était son nom.
Oui, absolument. Il a changé le prénom, on ne sait pas s'il s'appelait Pierre, Alexandre, enfin, quelque chose comme ça, mais le Dargelos existait vraiment.
Alors, vous l'avez dit, Jean-Yves Tadié, Paul, au début, admire Dargelos. Cette admiration se dévie en amour, mais évidemment qui n'est pas suivi. Il cherchait Dargelos, il l'aimait. Cet amour le ravageait d'autant plus qu'il précédait la connaissance de l'amour.
C'est oui, beau, c'est très beau. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, en réalité, il n'a pas pris conscience de sa particularité amoureuse.
Alors, il est tellement, comment dire, fétichiste de Dargelos, Paul, qu'à un moment, nous l'avons dit dans la première partie de l'émission, les enfants ont un tiroir où ils mettent leurs trésors, et à un certain moment, l'acte est si grave et l'admiration ou l'amour sont si grands qu'il met, avec l'autorisation de sa sœur, la photo de Dargelos dans le tiroir.
Exactement. Oui, oui, c'est bien la preuve de cette fixation. Et il faut bien voir, donc, ils ont construit là, les enfants, un monde sans parents. Et un monde où tout est permis, finalement. Un monde sans sanction morale, où on peut aimer sa sœur, où on peut aimer son camarade de classe. Tout est permis, c'est une sorte de paradis. Et je pense que c'est pour ça que la jeunesse des années 30 a aimé ce livre. C'est que c'était une sorte de libération. Il y avait une première libération avec Gide, bien sûr, et les nourritures terrestres. Mais c'était un peu général, Gide. C'était un peu enveloppé, c'était un peu sournois. Cocteau, au contraire, construisait tout de suite ce monde imaginaire où tous les adolescents pouvaient se réfugier, ce monde merveilleux où il n'y a plus de parents.
Et vous ne croyez pas que ça peut aussi venir de la guerre de 14 où pendant ces quatre années, les adultes et les pères étaient absents?
Oui, ça c'est ce qui est très bien dit dans le Diable au corps. D'ailleurs, voilà, nous sommes pas loin de Cocteau, là, effectivement. Ils ont appris à être au moins sans le père.
Et donc, nous avons dit tout à l'heure que Paul mourait d'opium, en quelque sorte, et celui qui a apporté l'opium, c'est Dargelos qui réapparaît vers la fin du livre, qui croise Gérard par hasard, et qui lui donne de manière mystérieuse cette boule d'opium pour Paul.
Exactement. Donc, alors, c'est probablement pas pour le tuer, c'est comme un objet de sa collection, et en même temps comme une allusion noire à la boule blanche du début. Et alors, il faut bien voir que l'opium est une obsession de Cocteau, qui n'est jamais arrivé à s'en délivrer. Oui. Mais en tout cas, comme il écrit en même temps opium, qu'il vit... Ces mois sont horriblement douloureux quand il écrit. Il souffre le martyr dans cette cure de désintoxication. Cocteau a eu une vie épouvantable, en réalité, dans son combat toujours perdu contre la drogue. Et donc, il vit un martyr, et il arrive à arracher à ce martyr ces pages éthérées, comme paradisiaques par instant, des enfants terribles. Je trouve que c'est très beau. Mais la boule noire est comme un rappel de la tragédie qu'il vit.
Les Enfants Terribles peut avoir l'air d'un film expressionniste, comme ça, très tranché, en noir et blanc, très hiératique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des instants de comédie aussi, parce que Cocteau était aussi un homme d'humour et même mieux de comique, je pense. Et par exemple, je pense au restaurant d'hôtel où Paul et Elisabeth séjournent. Les familles étaient noires, laides, gloutonnes, des petites filles malingres, rappelées à l'ordre par une tape, se tordaient le cou vers la table merveilleuse.
Vous notez d'ailleurs la table merveilleuse. C'est toujours cet enchantement que vit ce couple mythique du frère et de la sœur.
Alors, on sait, Jean-Yves Tadié, qu'il s'est en partie, et je voudrais que vous me disiez comment, inspiré d'un couple de frères et sœurs qui s'appelait les Bourgoins, n'est-ce
pas?
C'est
ça, oui, Jean et
Jeanne.
Et Jeanne Bourgoin, exactement, qui était... dont Christian Bérard, le grand décorateur et peintre, grand ami de Cocteau, qui venait le voir tous les jours à la clinique pendant la cure des intoxications, lui racontait l'histoire. Et il la connaissait plutôt d'abord par personne interposée. Et ensuite, d'ailleurs, ils sont entrés en contact. Il y a des legs de Cocteau à Jean Bourgoin. Jean Bourgoin a eu un destin très étrange. Il a d'abord... gâché sa vie, était très malheureux jusqu'au jour où il a connu la vocation religieuse, il est entré à la trappe et il a fini d'un cancer d'ailleurs à Garoua au Cameroun en soignant les lépreux. Et il a publié...
Dans les années 50, bien
voilà,
après.
Et on a publié après sa mort, sous le titre Le retour de l'enfant terrible, sa correspondance avec Cocteau. Et puis il avait une sœur, justement, Jeanne, qui devient Elisabeth, et qui se suicide à 20 ans. Jeanne était lesbienne, quant à elle, et vivait avec une princesse Murat. Et elle s'est suicidée avec les enfants terribles sur la poitrine.
Ça, c'est vrai qu'elle avait le livre sur la poitrine. Car le livre est de 29, elle s'est suicidée à Noël 29.
Oui, c'est ça.
Elle avait vraiment le livre sur la poitrine.
Oui, c'est ce que j'ai lu. Bien sûr, on peut... c'est ce que disent les érudits, qui sont sans pitié pour les...
pour les ragots.
Voilà, exactement. Et donc, oui, c'était... Alors, mais ce n'est pas, je précise, ce n'est pas parce qu'elle a lu le livre que j'ai suicidé, pas du tout. Voilà. Mais en même temps, c'est assez bouleversant comme histoire, parce que la vie a rattrapé le roman.
D'ailleurs, il y a une chose qui me semble intéressante, de signaler en passant que le prénom a changé, mais c'est une chose intéressante du romancier, c'est-à-dire que Jean et Jeanne, c'est un peu trop évident pour un roman, et Paul a changé le prénom, et Cocteau a changé le prénom de Jeanne en Élisabeth, ce qui est très malin à mon avis.
Oui, exactement, oui. Et alors donc, ce n'est pas du tout un roman réaliste, ni même un roman à clé que son livre.
C'est pour ça
mais
quand
en même temps, c'est l'histoire de ce couple a dû provoquer en lui un déclic qui a rejoint dans son univers la tragédie grecque, où les frères et les sœurs abondent. Les couples, chez Sophocle, chez Euripide, Proust et Cocteau étaient nourris de cette littérature, et donc les thèmes érotiques, sexuels et amoureux étaient pour eux, se déroulaient sous l'égide des archétypes grecs. Dont Proust, Cocteau a nourri son théâtre.
D'ailleurs, grec très probablement, toutes les indications sont données dans le roman, mais est-ce que vous ne pensez pas, et ce qui rejoindrait le succès que vous expliquiez du livre auprès de la jeunesse en 29, que ce film pourrait être adapté en version hippie? Des hippies, non?
Oui, c'est vrai que c'est... Oui, mais chaque époque a les siens. Donc les années 20 ont trouvé, comme vous le dites très bien, disons que c'est un monde sans censure. C'est pour ça que ce sont des récits poétiques habités par le rêve. Dans le rêve, il n'y a pas de censure. Et dans Les Enfants Terribles, non plus, finalement.
Est-ce que Cocteau, au moment où il a écrit ce livre, connaissait déjà un autre frère et une autre sœur qui s'apparentent beaucoup aux Enfants Terribles, qui sont Klaus et Erik Amann?
Alors, on les cite, en effet, à propos des Enfants Terribles. Vous avez tout à fait raison, c'était encore un couple fusionnel.
Évidemment, les enfants de Thomas Mann.
Oui, alors je pense qu'il en avait certainement entendu parler... Il a dû rencontrer Klaus Mann.
Oui, ça, il l'a rencontré parce que dans le journal de Klaus Mann, Cocteau est partout.
Oui, parce que les érudits évoquent en effet le frère et la sœur Mann.
Jean-Yves Tadier, que vous ont appris les personnages de Paul et Élisabeth, les enfants terribles?
Je sais que je les ai beaucoup aimés quand j'avais 13 ou 14 ans, parce que c'était justement le contraire du monde où j'étais enfermé. Et donc, ils m'ont apporté une forme de liberté. Et ensuite, je suis beaucoup plus sensible à l'ensemble du récit, c'est-à-dire à la voix de Cocteau lui-même, de cet homme qui, entre 17 ou 19 jours, c'est-à-dire plus vite que la chanteuse de Parme encore, arrive à construire cet admirable récit en commençant par la fin. Je trouve que c'est un exploit poétique merveilleux et qui... sans les personnages, il n'y aurait pas ce récit, mais en même temps, cela les dépasse. Et la dernière phrase que vous avez citée, c'est le plus beau de l'écriture de Cocteau lui-même que l'on lit.
C'était Personnage en personne, le 116e. La semaine prochaine, je parlerai du stéréotype et des personnages de la garce dans le roman, la nouvelle, le théâtre et le cinéma.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée d'émission Meryl Moneghetti, prise de son Pierrick Charles.
De ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le Rayon BD.